partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio, bienvenue dans notre émission Entre Chiens et Loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une drôle de femme, peut-être aussi une femme drôle, avec plus de 20 romans, peut-être je suis en dessous de la vérité, une quinzaine de romans me fait-elle un petit signe ?
13
romans. Mais qui compte chacun et qui connaissent à chaque parution une grande audience, on peut dire qu'elle est une romancière. Pas si c'est le terme est tout à fait juste, je ne sais pas, on lui posera la question. On attend ses nouveaux livres avec beaucoup de curiosité en se disant mais de quoi va-t-elle nous parler ? Ça c'est systématique chez tous les lecteurs et l'électrice que je connais, on se dit ça. Elle touche à des sujets essentiels. La vie du couple, l'amour, l'enfance, les jeux de la séduction, l'intimité, la guerre, l'histoire, l'environnement, la famille. On ne sait pas trop comment elle s'y prend, mais ses livres ne sont ni des analyses sociologiques, ni des catalogues d'idées. Il y a chez cette drôle de femme un côté petit garçon qui veut absolument savoir comment ça marche, ces trucs de la vie. Et de petite fille qui aimerait aller voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Elle s'appelle Alice, ce n'est pas complètement par hasard, et c'est peut-être déjà un indice. Elle aurait aussi un petit côté voltairien, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne se satisfait pas des idées toutes faites. Que cela ne nous étonnerait pas. À l'occasion de la parution de son nouveau roman intitulé « Deux innocents » aux éditions Actes Sud, j'ai le grand plaisir de recevoir Alice. Bonsoir Alice Fernet.
Bonsoir.
Vous scrutez la vie des gens dans vos romans et vous le faites en créant de la tension jusqu'à sa limite maximum. Qu'est-ce que vous voulez provoquer chez vos lectrices et vos lecteurs, Alice Fernet ?
Ah, moi, je vais vous décevoir, mais je ne pense pas du tout en ces termes-là. Je ne pense pas en termes d'effet, où c'est vraiment à la fin. C'est vraiment au moment où le livre est terminé. Ce à quoi je pense pendant que j'écris, c'est à éclaircir mon objet. Alors ici, par exemple, l'innocence, la justice, le soupçon, j'essaye de comprendre, c'est exactement ce que vous avez dit, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne, j'essaye de comprendre les émotions, les sentiments, les ressorts au-dedans des personnages. C'est comme si finalement je m'intéressais à une situation, à des personnages pris dans une situation et je vais au bout de tout ce que je peux en comprendre, en imaginer, pourquoi quelqu'un dit quelque chose, qu'est-ce que ça fait de l'entendre, quels sont les moteurs des actions. J'essaye de tout élucider en quelque sorte. C'est ça, pour moi c'est une élucidation l'écriture.
Élucidation, ça veut dire que c'est une sorte de recherche de la vérité.
Oui, exactement. J'ai souvent... je pense toujours l'écriture en termes d'histoire et de sujet. Donc j'ai une histoire, ce que j'appelle souvent la forme anecdotique d'un sujet, et puis un sujet qui est finalement le fond de signification que porte cette histoire, à quoi elle nous fait réfléchir, qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre de la condition humaine, de la vie, des inquiétudes, de tout ce qu'on peut éprouver. Alors ça bouge, hein. Par exemple pour les bourgeois, comment fait-on pour traverser le XXe siècle ? Naître en 1920, mourir en 2020, par exemple. Et là, pour ce livre, pourquoi soupçonne-t-on quelqu'un a priori d'insoupçonnable et qu'est-ce que ça fait d'être soupçonné et qu'est-ce qui va se passer ?
On va parler des deux innocents et du soupçon et de l'accusation et de tout l'enchaînement des événements qui habitent ce nouveau roman. J'aimerais que vous nous disiez dans vos 13 romans précédents, lequel vous paraît être le plus susceptible de nous révéler quelque chose d'une vérité importante, ou bien est-ce que tous ont ce fil conducteur ?
Ben ça, ils révèlent pas tous la même chose. Par exemple, je pense que le livre où moi je suis le plus, c'est-à-dire le livre qui par exemple révèle ma vision de la vie, c'est L'élégance des veuves, donc le deuxième. Et c'est pas tellement un hasard dans le sens où quand on commence à écrire, on fait ce qu'on peut. Hein. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir progressé, d'avoir davantage le choix de la forme. Mais quand j'étais jeune, j'écrivais ce que je pouvais. Après, je trouve que Les Bourgeois est très instructif de notre rapport à l'histoire au présent, c'est-à-dire du fait que c'est facile de savoir ce qu'il fallait faire et ce qui était bien après coup, mais c'est pas toujours si facile de connaître les bonnes décisions à l'instant de les prendre. Ça, je trouvais que c'était important. Je pense que L'Intimité est vraiment un livre qui éclaire de façon extrêmement exhaustive et honnête les choix procréatifs aujourd'hui, les questions que pose la technologie, le progrès technique qui n'est pas toujours un progrès humain. Et là, dans ce livre, je pense que ça éclaire bien une situation judiciaire.
Y a un de vos livres qui m'avait vraiment beaucoup marqué au moment où je le lisais. Je trouvais que c'était une architecture incroyable. C'était Les Autres.
Oui, je me le rappelle très bien, oui. Oui, Les Autres, et ben ma question à l'époque, c'était m'intéresser dans les relations humaines au fait que chacun pense de lui des choses qui sont pas forcément celles que les autres pensent. Et à quel point c'est violent parfois de découvrir comment les gens vous voient. Donc c'était quelque chose qui traitait de la théorie de soi, face au regard des autres et à l'expression du regard des autres que j'appelais, que je voyais comme une qualification. L'autre vous qualifie. Et d'ailleurs là, dans ce nouveau livre, on retrouve ce sujet. L'autre vous qualifie de coupable, par exemple. Vous êtes coupable d'avoir fait ceci ou cela. Et ça, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et Les Autres aussi, c'était particulier dans le sens où c'est un moment où j'étais un peu traumatisée ou mécontente ou perturbée de sentir à quel point j'écrivais avec une écriture classique. Et du coup, j'avais mené toute une espèce de petit jeu sur la forme en découpant le roman avec les choses dites, les choses pensées et les choses racontées. C'était un petit jeu.
Un petit jeu, mais d'une complexité incroyable. C'était à certains moments même assez inquiétant. Ça avait l'air d'être un jeu, mais...
Parce que la révélation... qui prouve ça, c'était la question que j'avais. C'était comment faire pour que le lecteur soit embêté quand un personnage qualifie l'autre et que c'est un désaccord entre eux. Donc ça prouve que ça marchait un petit peu.
Ah oui, ça marche, d'autant plus que ce sont des amis. Bon, on va parler des deux innocents. J'aimerais quand même que vous nous parliez un tout petit peu de vous, Alice Fernet. Et on va comprendre pourquoi c'est important que vous nous disiez ce qui, aujourd'hui, vous irrite le plus et aujourd'hui vous rend le plus heureuse. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ça ? Qu'est-ce qui vous irrite le plus ?
D'abord, je suis pas du tout dans l'irritation, dans l'indignation. J'ai pas du tout une âme de militante. J'ai envie d'être dans la vérité ou de trouver. Alors, ce qui m'irriterait si j'étais irritée, mais c'est vrai que ça peut en tout cas m'agacer, c'est le prêt-à-penser, le prêt-à-parler, les mots tout faits, le côté perroquet, parler de ce qu'on connaît pas, répéter. Finalement, c'est ce que j'aime pas, c'est la meute, c'est le côté je dis la même chose que les autres. Alors, je sais pas, j'allais dire Woody Allen est un salaud, ben moi j'en sais rien. J'étais pas dans sa famille, j'ai pas assisté à son procès, donc j'essaye de juste me taire. J'aime pas l'opinion. J'aime pas l'opinion publique à la limite. Hein. Et ça me fait penser, vous voyez, pour écrire mon livre, j'ai beaucoup lu sur des tas d'affaires judiciaires, et puis j'ai regardé des films aussi, des archives. Ben, ça me fait penser, par exemple, aujourd'hui c'est sur les réseaux sociaux et on parle de la violence sur les réseaux sociaux, mais par exemple j'ai regardé des archives du procès de Ranucci dans la fameuse affaire du pullover rouge. Eh bien, la mère de Ranucci s'est fait cracher à la figure. Il y avait une haine stupéfiante à l'entrée du palais de justice. On pouvait même pas y rentrer. Le procès ayant été complètement avivé par le crime juste récent de Patrick Henry, commis par Patrick Henry. Bon, ben, cette espèce de vindicte, d'ailleurs penser que Patrick Henry a crié à mort devant les grilles de la prison de Troyes lorsque Buffet et Bontemps ont été arrêtés après leur prise d'otage. Toute cette haine qui maintenant effectivement se déverse par des gens qui sont pas au courant. Enfin, je veux dire, on n'est ni avocat, ni juge. Ça, je trouve ça terrible. Et...
Mais le terme de meute qui aboie ensemble.
Oui. C'est ça, je trouve ça. La curée, c'est atroce. Mmh. Ouais. Vraiment, tout de suite, j'ai plusieurs fois cité à la radio, à la télé, les propos d'Hervé Thémime, récemment décédé, qui disait « Moi, il suffit que quelqu'un dise du mal de... que tout le monde dise du mal de quelqu'un pour que j'ai envie d'en penser du bien. » Je comprends totalement ça. Et je suis frappée, effectivement, à quel point c'est vraiment haro sur, tout d'un coup, quelqu'un, sans forcément que toutes ces paroles soient fondées. Ouais. Moi, j'aime bien qu'on parle en connaissance de cause, et je me méfie, mais je me méfie surtout beaucoup pour moi, des propos au Café du Commerce, on dit n'importe quoi, et ça, j'aime pas. Et pour moi, la littérature, c'est exactement le contraire de ça. C'est on réfléchit, on se documente, on y passe le temps qu'il faut et on n'affirme pas. Et en plus, comme j'ai encore une idée du livre comme étant un objet rare et précieux, je trouve que j'ai pas envie d'écrire n'importe quoi, donc je prends mon temps et je travaille bien.
Est-ce que quelque chose vous rend heureuse ?
Ah bah déjà cet accomplissement hein, de l'éclaircissement, c'est vraiment la vie éclaircie quand j'ai l'impression que j'ai compris quelque chose et que je vais pouvoir, et même que parfois que justement l'écriture du livre, parce que c'est quand même une grande partie de ma vie et c'est ma passion, hein, une vocation d'enfant, je suis heureuse quand j'ai l'impression que le livre m'a un tout petit peu changé. Et que peut-être, du coup, il va changer les lecteurs, parce qu'aussi, l'expérience que fait celui qui écrit, c'est pas tout à fait celle que fait le lecteur, mais lui aussi est le lecteur de son propre livre, lui aussi est transformé par les découvertes qu'il fait en écrivant.
Alors, précisément, on va parler donc des deux innocents, qui met en scène, en première place, une femme, d'une cinquantaine d'années, que vous appelez Claire Baudin. Alors elle s'appelle Claire, c'est pas complètement par hasard qu'elle porte ce prénom, parce qu'elle est transparente dans toute son existence, et Claire ça veut dire aussi lumineuse, et elle l'est aussi, elle est mariée avec un homme plutôt cool, comme on dirait aujourd'hui, un type gentil.
Pas un macho.
Presque, je dirais, normal. Ils sont heureux, ils ont beaucoup d'harmonie entre eux. Ils ont un petit garçon qui s'appelle Adrien et qui doit avoir 10-11 ans. Et tout ça fonctionne parfaitement bien. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont plutôt modestes, mais ils s'en fichent. Et ils sont heureux comme ça. Jusqu'au moment où on est dans la lumière, et puis au bout d'un moment, on est confronté à quelque chose d'assez dur. Qu'est-ce qui se passe pour Claire ? Claire Baudin, Alice Vernet.
Alors, il se passe que elle enseigne dans un établissement qu'on appelle médico-professionnel, donc qui vise à favoriser l'insertion de jeunes adolescents en difficulté du fait d'un handicap mental, et elle leur enseigne le secrétariat et l'administration, donc comment répondre à une lettre, gérer des dossiers, des choses qui sont très pratiques, pratico-pratiques, comme on dirait. Et elle fait ça très bien. Elle a un réel contact, une réelle qualité relationnelle avec ses jeunes adolescents. Et elle n'est pas du tout. Elle est très expressive. Elle reçoit les marques d'affection. Elle les rend. Et tout se passe bien jusqu'au jour où effectivement une mère d'élève se plaint. Finalement, la soupçonne. De gestes inappropriés, d'abus.
Il y a un premier signalement de parents, en fait. Il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Marguerite. Et petit à petit, on va s'apercevoir que les choses ne sont pas si simples. C'est-à-dire que là où tout nous semblerait simple, il semble qu'aujourd'hui, rien ne soit simple. Il y a comme l'histoire de Marguerite est finalement très commune. Elle est handicapée, elle souffre de son handicap et elle se confie à Claire pour lui dire que tel que je suis, jamais personne, jamais aucun garçon ne va s'intéresser à moi et moi je n'aimerai personne. Et ça la fait terriblement souffrir. Claire lui dit quelque chose.
Oui, alors c'est vrai que l'histoire de Marguerite est très emblématique et puis c'est une histoire à l'intérieur de l'histoire. En effet, Claire va lui répondre que bien sûr que non, qu'un jour elle connaîtra l'amour. Et elle se fait, elle reçoit un blâme pour avoir fait cette réponse parce que la mère de Marguerite trouve qu'elle n'a pas du tout à dire ça à sa fille. La directrice est d'accord. Et alors là, pour le coup, je ne crois pas que ça soit justement lié à aujourd'hui, à notre époque. Au contraire, j'ai l'impression qu'on a beaucoup progressé dans ce domaine. C'est-à-dire que, effectivement, on a une peur que les enfants handicapés. Bon, je ne l'ai pas écrit dans le livre parce que je ne voulais pas que ces jeunes soient enfermés dans un mot, mais ce sont des enfants qui sont porteurs de trisomie 21. Et effectivement, on comprend que les parents ont peur qu'ils vivent des histoires d'amour précoce, ont peur pour les filles de grossesse précoce, et de ce fait, ont du mal éventuellement à gérer ce rapport à l'amour, la question de l'amour. Mais en me documentant sur le sujet, j'ai quand même découvert qu'on avait énormément progressé. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, et je pense que c'est un sujet, un des bons sujets, un des sujets importants aujourd'hui, la société essaye d'être beaucoup plus inclusive et de reconnaître aux personnes en situation de handicap une sorte de droit quand même à vivre pleinement, alors qu'avant on était très très loin de ça. Et en fait, Claire, d'une certaine façon, sur ce sujet est progressiste, mais l'établissement dans lequel elle est, et en tout cas la directrice, ne l'est pas. Et quant aux parents, ça m'a beaucoup fait, je me suis beaucoup documentée sur le handicap, les parents d'enfants handicapés, les difficultés qui sont les leurs. Et bien sûr qu'on comprend, c'est pour ça que c'est encore une fois un livre où j'ai pas du tout, il n'est pas question de juger, il est question de comprendre. Les parents d'enfants handicapés ont des inquiétudes qui sont, tous les parents en ont, mais eux, ils ont une raison de plus de s'inquiéter de la vulnérabilité de leur enfant. Et Claire peut-être a pas pris complètement la mesure de cette inquiétude parce que justement elle est dans la lumière, comme vous dites, dans l'optimisme, et peut-être voilà, en fonçant là-dedans, elle a un côté presque peut-être effrayant.
Elle a un côté effrayant. Alors, ce qui est très beau, c'est le début du roman est merveilleux parce que c'est des sensations qu'on a tous connues à la rentrée des classes. On est tout à fait au début du mois de septembre, quand l'été se termine avec ses belles lumières et ces jeunes se retrouvent comme dans toutes les portes des lycées. Heureux de se retrouver, se racontant leurs vacances, et même certains ont appris des tubes et ils chantent à ce moment-là, dans cette rentrée des classes, une chanson de Céline Dion que vous allez nous faire entendre. Et c'est évidemment Pour que tu m'aimes encore.
J'ai compris tous les mots, j'ai j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces doux appellages, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages, pour chanter tes louanges. Je ferai nos les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirais sans remords que tu m'aimes encore. Je m'inventerai rêve que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu
sur IDFM Radio, dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévier. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir notre micro à Anguin, Alice Fernet, à l'occasion de la publication de son nouveau roman Deux Innocents aux éditions Actes Sud. Quel est le point de départ qui vous a donné l'envie de vous intéresser à cette situation pédagogique? Est-ce la relation prof-élève en général? Est-ce un intérêt pour la situation des jeunes handicapés? Est-ce l'inquiétude de ce que vous percevez du monde d'aujourd'hui? Alice Fernet.
Alors en fait, on pourrait dire que c'est rien de tout ça. Pour une fois, c'est très important de le dire, c'est une histoire entièrement vraie. Donc je n'ai rien inventé, simplement elle m'a été rapportée. Je connaissais l'accusé, enfin, ou plutôt la personne qui est au départ soupçonnée. On me l'a raconté, l'histoire commençait, Et ensuite, j'ai été tenue au courant de ce qui se passait. Et effectivement, alors pendant un temps, la personne concernée a eu, je pense, envie d'écrire le livre et moi j'aurais été prête à l'aider. Et puis finalement, elle a pas eu envie de le faire et j'étais un petit peu requise pour écrire pour qu'il reste quelque chose de cette histoire quand même assez pénible. Hein. Et évidemment, bon, quand il s'est agi de savoir si j'allais l'écrire ou pas. D'abord, je me suis demandé si j'en étais capable et j'ai pensé que j'avais bien les outils pour m'intéresser à ce trio, la directrice, la mère de l'élève et l'enseignante. Je pensais que j'étais capable. Et puis ensuite, je trouvais que le sujet, justement, était passionnant. Alors d'abord, la question de l'innocence, du soupçon et de la justice. Ça, j'étais ravie parce que c'était un vrai sujet. Je me disais que j'allais du coup me documenter sur toutes ces questions de justice. Et ça m'intéressait beaucoup. Et puis l'autre chose aussi, c'était que je trouvais qu'en effet, il y avait une résonance avec notre époque et que ça avait du sens d'y réfléchir maintenant. C'est-à-dire que ça avait du sens de réfléchir à pourquoi on soupçonne, pourquoi on accuse. Quand on accuse, qu'est-ce qu'il faudrait ? Quel genre de preuve il faudrait ? Et qu'est-ce que ça fait d'être accusé quand on croit qu'on est innocent, voire même quand on est innocent ? Donc toutes ces questions, je trouvais, étaient intéressantes.
Nous allons y venir, évidemment, parce que c'est vraiment le cœur du livre, ce questionnement. Le cycle que vous nous faites parcourir est assez terrible. Parce qu'il se déroule en très peu de temps. On passe du mois de septembre, de la rentrée scolaire, comme on le disait tout à l'heure, où tout est lumineux. Et petit à petit, on va entrer dans des zones sombres qui sont assez inquiétantes. Et tout ça se passe dans des sortes de huis clos. On n'est pas dans la grande folie sociale, non, on est dans des milieux très très circonscrits et c'est donc assez angoissant parfois, non ?
On peut lire le livre comme, bon, moi je le vois souvent comme le portrait d'une héroïne, et une héroïne inattendue, parce qu'effectivement c'est une femme, elle est extra, mais on sait pas quel courage elle aura. Or, elle a beaucoup de courage. Elle a du courage, elle tient quand même sa ligne de conviction. Elle est très loyale en fait, et elle est loyale au point même à un moment de s'interroger pour savoir si celle qui l'accuse a pas raison. Donc je la trouve vraiment une belle personnalité. Et on peut considérer, outre donc que c'est le portrait d'une héroïne, que c'est aussi l'histoire d'une chute avec une éventuelle rédemption. Mais en tout cas, elle va faire l'expérience. Moi, je l'ai beaucoup écrit comme ça, de la honte.
Et du doute, de la honte, de la mauvaise estime de soi, d'une rédemption possible, mais toujours remise en cause.
Et effectivement, le point de départ dans mes interrogations, ce qui m'intéressait le plus et que je trouvais original comme sujet romanesque, c'était le soupçon. C'est-à-dire donc, en fait, là, en l'occurrence, le point de vue de la mère. Pourquoi vous soupçonnez à une enseignante de gestes inappropriés et de finalement nuire à votre enfant alors même qu'il va très bien ?
Alors, précisément, replaçons-nous au début de l'année. Gabriel, le fils de cette dame, Geneviève Noblet, arrive, il est extrêmement timide, il ne regarde pas les gens en face, il regarde ses pieds, il est assez manhabile. Et en quelques semaines, tout son comportement va changer. Les parents qui arrivent à inscrire leur fils à l'embellie, qui est le nom de cette école, sont très heureux et très soulagés de le savoir pris en charge dans cet établissement. Par quel phénomène, selon vous, et selon Claire, a-t-il transformé son comportement ? Gabriel se révèle être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus loquace que quelques semaines avant.
Parce que je pense qu'effectivement, il trouve une interlocutrice, un témoin présent, quelqu'un qui lui témoigne de l'affection. Hein. Donc, c'est vraiment extrêmement... Enfin, c'est l'autre. C'est l'autre qui vous accueille et qui tout de suite vous rend beaucoup plus heureux, donne du sens à toutes les situations.
Alors précisément, je me disais, c'est pas une situation tout à fait ordinaire, c'est une situation d'apprentissage. J'imagine bien que dans votre documentation, vous avez dû vous plonger dans plein de livres, enfin, justement.
Sur la pédagogie.
Voilà, sur la pédagogie. Ouais. Et donc, vous avez sans doute trouvé des arguments. Et est-ce que on apprend plus facilement par l'échec ou par la réussite, par la sanction ou par la récompense?
Ouais, ça j'ai toujours pensé les deux, mais en tout cas on apprend mieux quand on aime son enseignant et quand on a le sentiment qu'il s'intéresse à vous. J'avais lu un livre très amusant d'un psychopédagogue qui avait commencé ses recherches en psychopédagogie alors qu'il était en fait enseignant en histoire-géographie, mais il s'était aperçu d'un fait amusant. Il habitait donc dans un quartier pas loin de l'école et il s'est aperçu que tous les enfants qu'il rencontrait dans la rue et avec qui il disait « bonjour, salut, ça va bien, à demain », se mettaient à travailler mieux que ceux avec qui il n'avait aucun contact extérieur. Donc en fait, c'était comme si tout lien personnel, même infime, favorisait l'envie de travailler, les apprentissages. Et c'est sûr que ça, tous les parents de la Terre ont bien vu que quand leur enfant n'aime pas l'enseignant, il ne travaille pas, quoi.
Vous avez été enseignante à l'université et vous avez vécu ça vous-même, peut-être comme élève, comme tout le monde.
Alors comme élève, j'ai pas de souvenirs, j'ai pas toujours... Enfin, en tout cas, comme parent et comme enseignante, personnellement, je trouve que je préfère une pédagogie de l'encouragement, mais de l'exigence aussi. Moi, en fait, je rêve et j'ai jamais rencontré d'école comme ça. J'aime pas les écoles où c'est l'exigence et le fouet, et les écoles où c'est l'encouragement mais le laxisme et peu d'exigence. Je rêve d'une école qui serait exigeante et encourageante. Bon, pour moi, il y en a une, en tout cas en classe préparatoire à Paris, c'est Sainte-Marie de Neuilly, qui est d'ailleurs l'école où a été formée la philosophe Élisabeth de Fontenay. Mais je trouve que eux arrivent à ça, en tout cas, exigence et encouragement. Et moi, à l'université, j'étais vraiment comme ça. Je cédais pas, mais quand les élèves rataient, j'essayais de voir avec eux pourquoi ils avaient raté. S'ils travaillaient pas, j'essayais de les pousser à travailler, mais pas à les engueuler, quoi.
Alors, on peut toujours rêver de cette école qui maîtrise toutes les rênes et l'envie aussi, la motivation pour apprendre, et qui satisfasse aussi bien les parents que les enfants. L'embellie, c'est un très beau nom que vous avez inventé, probablement.
Bien,
oui, l'embellie, le nom de cette école, a sa tête une directrice, Annick Joyeux, qui est complètement à l'opposé de Claire Baudin. Elle dirige son école comme on dirigerait peut-être une entreprise, je ne sais pas. Quel est son profil? Que pensez-vous? À quelle logique elle obéit, Annick Joyeux?
Je pense qu'elle obéit à la logique, à la norme, en fait, qui est les enseignants sont là pour enseigner, pas pour aimer. Et je dirais pas qu'elle dirige une entreprise, encore que elle tient effectivement à ne pas perdre d'élèves et elle tient à l'image et à la réputation de son établissement. Mais quand même, elle est assez professionnelle. D'une certaine façon, ça arrive parfois que les amateurs aient plus de charme que les professionnels, et c'est un peu le cas de Claire. Claire, elle réussit, mais elle n'a pas une vraie formation d'enseignante. Elle est brillante humainement. Elle est très sensible à la qualité des relations. Annick Joyeux, elle est dans la maîtrise, un peu sèche. mais elle met pas du cœur à l'ouvrage. C'est un peu la différence. Mais elle
moi, j'ai l'impression que c'est une manager, en fait. C'est pas tellement une pédagogue.
Bah, pour moi, c'est une directrice d'établissement très stricte et qui, effectivement, suit... Alors après, il faut rajouter quelque chose qui est tout à fait humain et qui est réel dans cette histoire, puisque moi, j'ai respecté les faits, j'ai absolument rien inventé. Les deux femmes ne s'entendent pas. Et c'est sûr que pour un enseignant... Ne pas s'entendre avec la directrice de l'établissement, c'est un problème. Et elles s'entendent vraiment pas, à la fois parce que justement elles ont pas la même vision de la pédagogie efficace, et puis parce que, question de personne, il y a une espèce d'animosité immédiate, une animadversion, ça s'appelle comme ça.
Alors oui, parce que Claire, elle est extrêmement chaleureuse, elle est joyeuse, elle est gaie, elle a envie, et elle aime voir ses jeunes progresser, et de semaine en semaine, on la voit de plus en plus heureuse. Quelquefois, elle a ses gestes, alors d'affection qui sont tout à fait, que je dirais, des gestes tout à fait innocent du point de vue du lecteur que nous sommes. On dit bon bah elle prend un élève par l'épaule, elle peut lui caresser peut-être les cheveux, le regarder sans procès d'intention, etc. Et je me demandais si c'était ça qui n'était pas au fond le grand changement de société que l'on vit, est-ce que la vérité simple des choses n'est plus acceptable aujourd'hui? On est devant une feuille de papier blanc, est-ce qu'on peut dire que la feuille est blanche? Est-ce que l'écriture est noire? Est-ce qu'on a la possibilité de dire autre chose que... bon, il y a une feuille avec de l'encre, et comme si on est obligé ou tenu de respecter quelque chose qui relève peut-être du politiquement correct, c'est-à-dire que on est comme tenu de ne pas avoir de gestes, de ne pas avoir de regards, de ne pas avoir de sentiments, ou tout au moins de les exprimer.
Bah, je sais pas comment dire, hein, moi j'ai une vie et je suis dans un certain monde, je prétendrais pas à connaître toutes les règles et toute la manière de fonctionner de la société. Effectivement, c'était une des questions que posait cette histoire, c'était est-ce que tout geste ne risque pas aujourd'hui d'être interprété d'une façon érotisée, en fait, c'est ça. Ça renvoie à la question de l'érotisation de la société. La société est très érotisée. On se promène dans la rue, il y a des affiches érotiques. Les photos sont très érotiques. Là, on a mené une enquête. Maintenant, on sait que 40% des enfants de 12 ans regardent du porno sur leur téléphone une fois par mois. Bon, donc la présence du sexe, de la sexualité est très intense. Et puis, du coup, est-ce que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a dû finalement pointer à juste titre les agressions sexuelles, les comportements inappropriés et ça, moi, je dirais pas que c'est pas bien. C'est-à-dire, si effectivement un type profite de sa situation de pouvoir pour coucher avec toutes ses secrétaires, ses assistantes et les gens qui sont sous ses ordres, c'est insupportable. Donc, en effet, on a raison de le dénoncer. C'est aussi vrai que on peut ne pas avoir envie d'être pris dans les bras, qu'on vous tape l'épaule, donc l'attention aux situations humaines est légitime, je dirais pas que c'est pas bien. Là, j'avais plus le sentiment que ce qui compte, c'est justement l'attention à la situation humaine et pas des principes généraux, parce que chaque situation est différente. Là, bien sûr que quand ces enfants ont besoin d'être réconfortés et qu'ils viennent se blottir, ils réclament un câlin ou ce que j'ai appelé une étreinte ou ce qu'on a appelé à une époque aux États-Unis un hug, vous vous souvenez ces campagnes de pub free hug, parce que les gens ont besoin d'attention, là, on n'a pas, justement, il ne faut pas mésinterpréter cette affection qui est totalement désérotisée, totalement proche de la de la, l'espèce d'amour universel, de la charité. Et donc, je trouve que ce que dit cette histoire, c'est justement que chaque histoire est à part, que chaque histoire est singulière, que chaque geste n'est pas à interpréter dans le cadre d'une norme globale, mais dans le cadre de l'histoire en question.
Oui, donc cette espèce d'obsessionnalité du geste qui pourrait être érotisé ou qui pourrait être un signe de domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, ça perturbe quand même l'esprit.
Je pense que d'une certaine façon, on est dans un moment où on a quand même été perturbés par les découvertes qu'on fait sur la façon dont effectivement certains hommes abusent de leur pouvoir. Bien sûr que c'est normal qu'on soit un petit peu, on est dans un moment après révélation, on est sous le choc finalement de l'ampleur des abus, mais du coup il faut le savoir, si on en a conscience, on va pas se mettre à soupçonner tout le monde.
On va continuer à parler de ce livre « Deux innocents ». On va écouter un peu de musique, une musique que vous avez choisie qui est dans le thème vraiment du livre « Mourir d'aimer ». C'est une chanson de Charles Aznavour qui a illustré un peu, qui a évoqué l'affaire Gabriel Russier.
Les parois de ma vie s'enlisent, je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit. Sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer.
Mourir d'aimer de Charles Aznavour. Vous êtes bien sûr IDFM entre chien et loup avec Claude Lévy et j'ai le plaisir d'être ce soir en compagnie d'Alice Fernet, auteur de très nombreux romans sur le couple, les relations amoureuses et dont le plus récent, Deux innocents, nous ouvre à des sujets très très intéressants sur la relation pédagogique mais aussi sur ce que peut être la bonne ou la mauvaise foi, sur l'habileté de certains à faire de l'autre un coupable probable possible. Comment fonctionnent selon vous toutes ces machineries de stratégie, je dirais. C'est très à la mode, ces comportements-là, qui m'échappent un peu, mais peut-être vous qui avez approfondi la question, vous savez comment les gens agissent les uns sur les autres. Et notamment dans le roman, on voit comment ça se traduit pour Claire, qui est la première victime, mais aussi pour Gabriel et dans sa propre famille. Est-ce que vous voyez cette machine, enfin ces machines à la fois psychologiques de désir, de soupçon justement, vous pouvez nous éclairer sur là-dessus, sur le fait de soupçonner les gens de choses qu'ils pourraient avoir commises et ils sont mis en accusation, on appelle culpabiliser les autres.
Déjà d'écrire cette histoire m'a fait prendre conscience d'une sorte de cascade hein, qui est et qui est très bien illustrée par trois mots qui sont soupçonné, accusé, condamné. Et d'une certaine façon, je raconte l'espèce de descente du premier vers le dernier. Et effectivement, la première chose qui m'a intéressée, c'est le soupçon. Alors moi, je le vois pas comme des machines. Je généralise pas du tout. Je me suis vraiment concentrée sur l'histoire en étant extrêmement fidèle aux faits et en essayant justement de comprendre les ressorts de ce que les personnages de l'histoire ont fait. Et effectivement, la première, c'est la mère donc qui soupçonne. Et j'avais assez vite cette idée que le soupçon était un peu comme la jalousie, quelque chose qui vient plus de celui qui soupçonne que de celui qui est soupçonné, et qui est donc un problème qu'on a avec soi-même. Donc j'ai un peu creusé, sans donner de réponse, mais vraiment en faisant des hypothèses. Est-ce que quand on est la mère d'un enfant handicapé, ce qui est difficile à accepter, on peut avoir une espèce d'inquiétude déjà de ne pas savoir s'y prendre, de culpabilité, ça c'est certain, de colère, et qui fait qu'on n'est pas forcément accueillant et bienveillant avec quelqu'un dont on se dirait il réussit mieux que moi, mon fils la préfère. J'avais le sentiment effectivement que dans l'histoire le soupçon et la jalousie avaient marché ensemble. Et puis, là, je me suis aussi posé la question de l'air du temps. Dans un moment où on parle beaucoup, justement, de gestes inappropriés, d'abus, etc., c'était du coup quelque chose qui renforçait le soupçon. Et pour moi, d'ailleurs, une des choses intéressantes dans cette histoire, on s'en aperçoit dans la scène cruciale du commencement du livre, lorsque le soupçon est enclenché, et que la directrice de l'établissement organise une confrontation entre l'enseignante et la mère, et que là, le soupçon s'exprime, et le soupçon s'exprime mal. Je trouve que le soupçon s'exprime avec des mots qui sont assez crus et violents, tripotage, main aux fesses, gestes inappropriés. Quand vous avez juste été accueillant avec des enfants, ça vous choque qu'on vous reproche ça. Alors que j'ai beaucoup pensé que si la mère avait dit « Je m'inquiète parce que mon fils se fait des idées et qu'il est en train de tomber amoureux de vous », l'enseignante aurait compris, parce qu'en plus elle avait déjà compris que le besoin que cet enfant avait d'elle était dangereux et excessif. Donc ça m'a frappé que les mots « tout fait » qui traînent partout sur toutes les dans toute la presse avaient été employés au lieu de mots personnels qui auraient beaucoup mieux exprimé la situation. Et ça me paraît très important.
Oui, parce que il est beaucoup question de langage, et c'est sur ces langages, je dirais tout fabriqués, clé en main.
Qui fabrique le malentendu, c'est-à-dire qu'effectivement la mère va parler tripotage, c'est un très vilain mot, main aux fesses, et elle devient inaudible par l'excès ou l'inappropriation de ces mots. Et l'enseignante répète L'enseignante dit qu'elle aime tous ses élèves, et là on est dans la polysémie du verbe aimer dans le français, qui veut tout dire, qui veut
dire. Oui, elle ne dit pas, elle ne dit pas je t'aime bien, parce qu'elle répond à Gabriel. Gabriel qui est quand même très épris de sa prof, qui découvre dans toutes ces gestes d'affection, d'écoute, ses accolades, ses baisers, il lui demande mais est-ce que tu m'aimes vraiment, et elle lui dit oui, bien sûr je t'aime. Elle ne lui dit pas je t'aime beaucoup, elle lui dit pas je t'aime.
Oui, elle lui dit parfois je t'aime bien, je t'aime beaucoup, mais effectivement parfois elle fait cette erreur, hein, parce qu'évidemment elle fait de ce point de vue là une erreur,
c'est sûr. Mais alors les juges, puisqu'on passe peut-être au moment de l'accusation, la juge ne lui fait pas de cadeau, puisque la juge aurait pu mentalement apporter le correctif qui s'impose, à savoir, oui, Madame Baudin, vous aimez Gabriel, mais vous l'aimez beaucoup, comme un enseignant aime ses élèves. Elle ne l'a pas fait.
Oui, avant la juge, la directrice n'a pas rassuré la mère. Ensuite, on monte un dossier, qu'on rentre, effectivement. J'avais fait exprès, dans la structure du livre, de d'abord faire du lecteur un témoin de ce qui se passe dans la classe, de la façon dont cet enseignant travaille, et j'avais appelé ça l'esprit. Parce que, effectivement, c'est comme ça que je trouve on doit comprendre les comportements. Quel est l'esprit d'un comportement, d'un geste? Est-ce que c'est un geste bienveillant, dominateur, prédateur? On le sait. Je suis persuadée que dans toute notre vie, celui à qui les gestes sont adressés, en tout cas, sait très bien à quoi et à qui il a affaire.
S'il est tout à fait normal.
Oui, mais je pense même que Gabriel et même les enfants de la classe, à qui on n'a pas donné leur avis, c'est une histoire qui révèle aussi beaucoup le traitement actuel, enfin où est-ce qu'on en est dans la prise en charge des enfants en difficulté. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'encadrement, et tout ça, ça nuit beaucoup. Et effectivement, on les écoute pas, on leur demandera même pas leur avis. Mais ensuite, une fois que le dossier est monté, effectivement, des SMS, c'est une pièce à conviction. Et la juge, elle est dans l'écoute de la victime. Elle est dans l'écoute de la plainte. C'est ça aussi que monte l'affaire. Elle reçoit l'affaire. Ce qui paraît pas complètement... Pour moi, la juge se tient pas mal du tout, hein. Là où je pense elle fait une erreur, et je pensais beaucoup, quand j'étais enfant et jeune fille, je regardais beaucoup Columbo. Et je me souviens très bien que quand un mari meurt, la première suspecte, c'est sa femme. Hein. Et Columbo testait. Là, la juge, en fait, se laisse embarquer. La plainte désigne un coupable et la juge ne fait pas cette opération qui consiste à vérifier tous les coupables possibles.
Donc, peut-être la mère, et y compris le fonctionnement même de l'école.
Exactement.
Et le fonctionnement de l'école.
Elle fait une enquête à charge. Mmh. Alors même que ça n'a rien d'évident. Il y a un événement qu'on raconte pas, parce que sinon ça déflore quand même trop le plaisir de la lecture, mais elle devrait enquêter beaucoup plus largement. En particulier, elle refuse de faire une perquisition chez les parents. Et ça, pour moi, l'enquête est mal menée.
La perquisition chez les Baudin est assez redoutable un matin. C'est terrible. C'est terrible. Mais bon, ça fait partie, je dirais, des chefs d'accusation et des procédures derrière lesquelles tout le monde peut se cacher ou bien justifier ses actes. Toujours dans cette idée-là, l'idée que est-ce qu'il faut se taire? Est-ce que clamer son innocence? Non, enfin, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'il est de bon ton dans la société où on vit de cacher tout ce que l'on est? Est-ce que la vérité ne peut jamais être acceptée telle qu'elle est? C'est un peu ce malaise qu'on a, parce que en se mettant vraiment à la place de Claire, on n'a rien à cacher. Alors, qu'est-ce
oui,
qu'on vient nous reprocher?
Elle a toujours à chaque fois, sa solution, c'est dire la vérité. Mais enfin, ça, pour le coup, s'il y a des avocats qui nous écoutent, ils le savent bien. La procédure judiciaire, c'est pas la vie. Et donc effectivement, il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire. Il faut arriver à être cru. Et être cru, c'est pas forcément en disant toute la vérité, rien que la vérité. C'est plus fin que ça. Et un des défauts de Claire est sans doute qu'elle est trop obstinée dans sa façon à elle. Effectivement, à un moment, elle le paye assez cher.
Effectivement. Nous allons nous interrompre encore un instant avec une très très belle chanson de Serge Reggiani. Il suffirait de presque rien. C'est votre choix musical, Alice Vernet. On se retrouve dans quelques minutes pour aller jusqu'au bout de cette terrible histoire.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie.
Voilà, vous êtes toujours sur IDFM Radio Enguin dans l'émission Entre Chiens et Loups et nous sommes en compagnie d'Alice Vernet. Alors nous arrivons à la fin de l'émission. Claire Bodin et Alice Vernet posent une infinité de questions dans ce livre où le point d'interrogation est omniprésent. Tout le monde se pose des questions sur ce qu'il ferait, etc. Mais Claire pose cette question superbe, je trouve. Qui pourra restaurer l'esprit des choses, Alice Vernet? Avez-vous une réponse?
C'est toujours la grande question. Et la question, vous savez, qui est liée au passé. Pour moi, elle renvoie au passé et à l'interprétation. C'est-à-dire, quelque chose s'est passé, qui avait sa vérité, mais qui est maintenant localisé dans un temps et dans un espace auquel on n'a plus accès. Ça s'est passé, le temps est terminé. Et comment on fait pour comprendre ce qui s'est passé? Alors moi, ma réponse personnellement, c'est la littérature. C'est-à-dire que l'écriture, c'est ça pour moi. C'est s'attarder suffisamment et aussi avoir l'honnêteté de ne pas utiliser ni des mots tout faits, ni des formules toutes faites, ni des pensées toutes faites, mais revivre les choses, écrire c'est revivre les choses pour mieux les comprendre, pour les éclaircir. Et ça, c'est une des chances qui est donnée aux romanciers. Après, dans la vraie vie, je ne sais pas. Quelquefois, c'est pas possible. Parce que de toute façon, il y a un secret des intentions. Le fort intérieur peut rester impénétrable.
mais pas pour vous. Il semblerait que vous soyez très pénétrante dans le fort intérieur de vos personnages, et vous, pour moi, c'est ce livre Deux Innocents, c'est un peu le livre de l'intranquillité, parce que il est extrêmement questionnant, et le fort intérieur de chacun de vos personnages, mais aussi notre fort intérieur à nous, puisque vous approfondissez tout ce qui est de la vie humaine, de l'humanité dans toutes ses joies et ses inquiétudes. Voilà, un très grand merci à Alice Ferronet pour ce beau roman, avec tous ces personnages marqués, très marquants aussi, toutes ces machineries sociales quand même, on n'aime pas trop le terme, mais quand même, lorsque on entre dans le judiciaire, on est quand même dans la machinerie, un peu aveugle et un peu sourde. Merci à Francky qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une émission qui va vous emmener en vacances, une émission de jazz avec des ballades de Billie Holiday. Merci, bonne soirée à tous, et merci de votre fidélité, et restez bien à l'écoute de nos programmes sur IDFM Radio. Oh,